La princesse par Andrei Sobol. Ceci se passait en mars 1920. Et bien que le pays fût méridional, les journées étaient remplies de bourrasques neigeuses. Le champ d'action se limitait à un wagon anciennement de service. Les cloisons abattues en avaient réuni deux compartiments, et la pièce ainsi arrangée avait pris l'aspect d'un salon, d'une salle à manger, ou bien encore d'un bureau de campagne. Mon hôte était commissaire d'arrondissement. Notre train avançait à travers 1000 obstacles. Derrière nous se dispersaient les détachements vaincus de volontaires blancs, cherchant à rejoindre la mer et les navires anglais qui les y attendaient. Devant nous pullulaient d'innombrables groupes de bandits. Nous avancions en prévision de l'heure et de l'endroit inconnu, où les rails enlevés allaient nous crier « Stop !» Humble civil, j'étais tombé parmi une foule de capotes grises, de rapports, d'ordres, de rubans de mitrailleuses. On tirait devant moi et on tuait derrière. Pris entre la journée d'hier et celle de demain, je suivais la marche des minutes et des heures. Semblable à une vieille fille, je me disais la bonne aventure. Pile, face, père, impair, la mort, le salut. Le but de mon voyage dépendait entièrement de mon hôte. Le commissaire qui, après m'avoir repêché comme un copeau dans un torrent, tenait mon sort dans sa main ferme. J'étais pris dans les remous d'un maelstrom. Tout près de mon lit, derrière la cloison, jusque dans la nuit tardive, une machine Underwood tapait des ordres. J'ignorais cependant leur destination et l'heure à laquelle ils allaient être remis à qui de droit, pas plus que je ne savais à qui mon hôte les dictait. Je ne comprenais rien à la situation, sinon qu'autour de moi c'était la neige, les bandits, les gares mortes et les fils télégraphiques coupés. Toutes ces choses échappaient à ma compréhension, et il en était de même pour mon hôte. Jadis, nous siégeons tous les deux sur les banquets du Café de la Rotonde à Paris. En vers très tendres, il y chantait son bel amour qui n'avait jamais existé. Et nous voilà, voyageant ensemble depuis deux nuits. À 1 heure du matin, le train s'était arrêté une fois encore. Derrière les vitres, je voyais glisser des ombres rapides. Au sein de la nuit muette, dansant au bout des bras qui sortaient à peine des ténèbres, des falots fumeux jetaient leur lueur jaune sur la neige. Je ne pouvais saisir le sens de paroles brèves qui s'échangeaient dehors. J'ignorais qui régnait sur la nuit, et à qui celle-ci allait être propice. Aussi retournai-je vers mon lit. C'est alors que mon hôte pénétra dans mon compartiment. Je ne le questionnais point, mais rien qu'à le voir prendre place à la table, et dédaignant le verre, s'emparer de la théière froide pour la porter à ses lèvres, je compris qu'il avait passé la nuit à veiller. Et c'est justement cette nuit-là, la dernière de sa vie, qu'il s'assit au rebord de ma couche pour recommencer notre causerie, celle qui avait débuté il y avait 10 jours, quand la nuit, les gardes rouges m'avaient traîné devant lui comme otage. Et il dit « J'aurais certainement signé l'ordre de ta mise à mort, et j'aurais commandé « Emmenez-le !» Je sais que tu aurais marché d'un pas ferme, sans même te retourner pour voir si j'avais baissé mon regard. Et tout cela, parce que tu n'es qu'un comédien. Tu aurais marché crânement en te disant « Ne te retourne pas, montre-lui comment c'est mourir. » Cependant, que tout au fond de toi-même, il y aurait le désir de te jeter à terre, de baiser les bottes des gardes rouges pour qu'ils te laissent partir. Car ton âme est cousue de pièces et de morceaux, et c'est pourquoi il faut mourir. » La bougie s'était éteinte. Il voulut en allumer une autre, mais s'arrêtant soudain, il prit sa tête entre les mains. Il y a longtemps qu'il a disparu d'entre les vivants. Cependant, je pense toujours à lui, et je me demande, pourquoi lui qui mettant le feu dans toutes ces manifestations, pourquoi avait-il désiré dans cette dernière nuit de sa vie demeurer dans les ténèbres? Qui donc voudrait s'élever au-dessus de ses pièces et de ses morceaux, dit-il. Non, écoute. Te rappelles-tu le jour où on t'avait emmené auprès de moi? Le jour où tu avais si faim? Sans rien dire, j'ai commencé par te donner à manger. Avec quelle avidité dévorais-tu les mets? Tu avais oublié tes pièces et tes morceaux. Rassasié, tu ne me demandas plus rien et tu t'endormis. Je te recouvris alors de mon manteau, et cela me fit penser aux jours déjà anciens, à notre chambrette de la rue Gazan à Paris. Une nuit, ayant bu, tu avais crié « Je veux rentrer à la maison !» Et te voilà à la maison, mon pauvre comédien, mon malheureux avaleur de sabre. » Il s'arrêta pour reprendre aussitôt. « Écoute, tu vois cette cloison ? Eh bien, derrière elle repose mon second. Tu le verras demain. » Secoué par la grippe espagnole, il n'avait pas été en état de sortir ces jours derniers. Il va se lever. Tu le regarderas bien de tous tes yeux. Et maintenant, je vais te parler de lui, car j'ai le droit et le devoir de te conter son histoire. Tu m'entends ? Et sa main légère et lourde à la fois se posa sur la mienne. C'est ainsi que l'amour se pose sur notre âme. Et c'est ainsi encore que mon pays, la Russie, avait sur moi posé sa griffe. Mon ami parla. Demain, en le voyant, tu comprendras certes la raison pour laquelle, jadis déjà, on lui avait donné le sobriquet « l'Atamant ». Ce fut en 1908, quand, simple soldat, humble serrurier, il avait réussi à entraîner à la révolte tout son régiment. On voit que là-bas, à Motovilika, sur l'Oural, dans le pays où il est né, l'air et le pain sont différents de ceux d'ici. Les hommes y poussent large d'épaules et de cœur. En le voyant, tu comprendras comment cet homme a pu supporter toutes les peines qui successivement s'abattaient sur ses épaules de colosse, et les 9 années de bagne, et les 2 tentatives d'évasion dans la taïga sauvage, sous l'œil pourtant vigilant des sentinelles. Je ne parle même pas des coups qui en furent la conséquence, ainsi que des interminables mois de travaux forcés, jusqu'aux genoux, dans la boue glacée. Le bagne, il y a vu la mort de bien près, et quand vint le moment de la fustigation, il tenta de s'empoisonner. Silencieux dans un coin du lit de camp, il avait avalé de la morphine. On le sauva cependant, et avec la guérison, son indomptable volonté revint. La résistance opiniâtre recommença. Tous les autres s'étaient pliés, sauf lui. 2 forces se trouvaient alors en présence, là-bas, face à face. L'Atamant et le commandant du bagne. L'un cherchait à écraser, l'autre ne se laissait point faire. Le duel à mort continuait, et l'un des deux y aurait immanquablement succombé si la révolution de mars n'avait pas sauvé l'Atamant de la mort sur le gibet. Les drapeaux rouges l'ayant salué à Chita, c'est à eux qu'il se donna corps et âme. Toujours silencieux, il était sans cesse en avant. Quand il s'agissait de parler, il cédait son tour aux autres, mais en revanche, le danger venu, il exigeait pour lui la première place. Pendant les 8 mois de notre vie commune, je ne l'ai jamais vu rire. Quant aux larmes, nous n'en parlerons même pas. Les villages, les villes, se noyaient dans des torrents de pleurs. La terre elle-même sanglotait, et lui restait impassible. Et ce qu'il y a de plus étonnant dans toute cette histoire, c'est qu'il n'était pas le moins du monde cruel. Et cependant, les cœurs se durcissaient alors comme des croûtons oubliés de pain de soldat. Les hommes serraient les dents, et apprenaient à sabrer des oui et des non. Petits, malingres, tels des bêtes, ils s'abritaient derrière la loi, œil pour œil, dent pour dent. Et lui, large d'épaules, dépassant les autres de 2 têtes, la tignasse frisée, pareil à ces héros géants dans la steppe libre que nous donne l'imagerie populaire, en silence, il repoussait loin de lui toute cruauté. Je le vis un jour dans une bourgade juive où nous étions entrés après la retraite des Blancs. Il s'était arrêté devant le cadavre d'une fillette rousse que les volontaires avaient violée. Elle était couchée près du puits et sur son ventre nu, à peine abrité par une chemise en loques, grouillait des essaims de mouches dorées. Plongé dans le mutisme, il demeura ainsi quelques instants, puis, lentement, il se dépouilla de sa capote pour en recouvrir le corps, qu'il souleva aussitôt. Le maigre fardeau dans ses bras, il partit vers une chaumière proche. Comme il le portait, je voyais que son visage prenait de plus en plus une teinte grise. Et c'est là que, pour la première fois de ma vie, je compris qu'une face humaine pouvait se pétrifier. Notre détachement s'étant emparé de la ville de W, l'Atamant fut nommé président de la Tchéka. Toujours silencieux, il accepta cette nomination. S'épargnant des paroles inutiles, il passa des champs humides et des bivouacs sur la terre nue dans un bureau situé au rez-de-chaussée d'un riche hôtel particulier. La mort fauchait les gens. Comme des épis sous la tempête, ils se couchaient sur les champs ensanglantés. Lui, toujours droit, sans se courber, il longeait le sillon qui séparait la vie de la mort. Un jour, il nous arriva une nouvelle camarade, Natacha Toropov, jeune fille de 25 ans, nommée dans la Tchéka. Maigriotte et fragile, on eût dit qu'à l'instant même elle allait se casser en deux. Elle était pourtant plus forte que nous. Ainsi, quand nous nous occupions à surveiller le colonel Prakomienko et son groupe, Natacha ne s'était point couchée pendant 15 jours. C'est elle encore qui découvrit le complot. Pas belle. Avec cela, un regard louche, des yeux bridés. Elle paraissait aussi insignifiante qu'un cendrier sur la table du bureau. Mais il lui suffisait de sourire pour que tous ne nous sentions comme perdus. Et ce n'était ni de l'enchantement, ni du désir, je te le garantis, mais une véritable crainte d'un anéantissement proche. Le sourire inattendu de Natacha nous enlevait toute capacité de combiner, de penser, de chercher une explication à l'inexplicable. L'homme égarait le fil de ses idées et ne pouvait plus s'orienter. Je compris alors que l'attamant serait le premier à perdre la tête. Et la liaison vint. Tout cela s'était passé devant mes yeux. J'avais vu mon ami se mourir d'amour. Tout son trésor d'affection, jusqu'ici dissimulé, toute sa soif de bonheur humain, il les avait placés sur ses lèvres souriantes. En fermant les yeux, je les revois tous deux plongés dans le travail. J'aperçois sa large main à lui, cette poigne volumineuse sur laquelle la petite aurait pu se placer tout entière, et les doigts minuscules de Natacha, toujours tachés d'encre violette. Elle ressemble à une petite lycéenne, sans le tablier réglementaire toutefois, la natte châtaine sur l'épaule. Je ferme les yeux et j'entends chanter l'attamant. J'avais vécu près d'un an avec lui, toujours à ses côtés aussi bien dans les assauts que dans les retraites, regardant ensemble la mort dans les yeux. Je n'avais jamais su que l'attamant savait chanter, qu'il aimait la chanson russe, cette chanson libre jusque dans son esclavage. Et cependant, ce fut Natacha qui, dès le 5e jour de leur liaison, l'avait obligé de chanter. J'entends comme elle le lui demande d'une voix paresseuse en traînant sur les mots. « Je resterai couché pour me reposer un peu, et toi, tu vas me chanter ma chanson favorite. » Celle-ci n'était autre que la mélopée populaire qui parle de Stenka Razine, de la princesse persane, de l'attamant changé en femme. Je voudrais ne plus m'en souvenir, et cependant j'entends la petite qui, pendue au cou puissant de mon ami, murmure « Tu es mon attamant, tu es à moi, tu es fort, fort, et je suis ta princesse, ta petite princesse persane. Je tiens tout entière dans tes mains géantes, mais je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. » Cela, c'était la nuit. Mais dans la journée, elle abordait les camarades en leur disant de sa petite voix sèche et affairée « Rien à faire. Prenez exemple sur lui, c'est un travailleur. Pour vaincre, la révolution a besoin d'hommes de sa trempe. » Et à nouveau, de sourire, « Je suis heureuse de pouvoir œuvrer à ses côtés. » Je voudrais oublier, mais je ne peux le faire. Mes oreilles résonnent encore de paroles enchanteresses que j'entendais la nuit dans la barque. Car il faut te dire que le petit louchon aimait la course rapide de l'esquive sur le fleuve enténébré. Aussitôt que la nuit arrivait, et qu'il n'y avait pas de travaux pressés, elle prenait l'attamant par la main et l'attirait vers la barque, et toujours avec des paroles d'amour. Ces propos d'enchantement me furent rapportés plus tard d'une voix rauque dans cette inoubliable journée de juillet, quand, après une longue absence, mon héros d'épopée populaire se rua dans ma chambre, lancé par une force invisible, comme un gros sac rempli de paillachés, et lui disait « Tu es le plus fort de tous. J'aime tes boucles. J'aime tes yeux gris. Fais-les étinceler, mon désiré. Et moi, je feindrai la frayeur. Oh, tu vins vers moi comme issu d'un vieux conte. Qu'il est doux de reposer sur ta poitrine et voguer avec toi au loin. J'aime tes mains. Tous te craignent et je les vois devant toi comme des moineaux. » À la fin mai, les Blancs ayant commencé à se remuer sur la rive droite, des désordres eurent vite fait d'éclater. Le 26 du mois, ils s'emparèrent de la ville de B, que nous reprîmes le 29, avant même que nos ennemis eussent eu le temps d'emporter leurs bagages. Parmi tant d'autres affaires tombées entre nos mains, se trouvaient tous les papiers concernant leur service de renseignement. Le 30, l'attamant fut appelé au télégraphe particulier. Le soir tombait déjà. Au rez-de-chaussée, Natacha s'occupait à questionner les prisonniers. et l'attamant s'en alla tout seul au salon où se trouvait l'appareil. Rapide, le crayon d'acier tapait rageusement. La tête de l'attamant se penchait de plus en plus sur le ruban blanc, sur les lettres terrifiantes et noires. D'après les documents, saisi, il devient indiscutable que l'agent Natacha Toropova, princesse Mourabline, en liaison avec général Rybielski, saisit rapport Toropova Mourabline, plan organisation, on vous propose. L'attamant arracha le ruban. Il entra dans son bureau d'un pas mesuré, comme s'il obéissait au son d'un tambour. Un instant de défaillance, et le géant tomba sur sa table au moment même où Natacha pénétrait dans la chambre sans frapper selon son habitude. Ce jour-là, ce fut lui et non elle, qui pour la première fois proposait de faire un tour en barque. 20 minutes, une demi-heure, en attendant le rassemblement du conseil, avait-il dit en se plaignant d'un mal de tête. Pendant le court trajet qui séparait les bureaux de la Tchéka du rivage, le louchon esquissa une centaine de sourires. Aussitôt arrivé au milieu du fleuve, Natacha, selon son habitude, plaça sa tête sur les genoux de l'homme. Fût-ce que l'heure de leur excursion n'était pas coutumière, ou bien encore que la longue enquête l'eût fatiguée, la jeune fille demeura silencieuse. Puis elle ferma les yeux. Et c'est alors que l'attamant murmura à son oreille. « Princesse !» Souriante, Natacha leva les paupières. « Princesse Mourabline !» Elle recula, épouvantée, et cédant de ses coudes lentement, elle se mit à ramper. Mais déjà, une large main de fer pesait sur sa bouche. Une autre la soulevait. Les doigts énormes s'appesantissaient de plus en plus sur les lèvres de la petite princesse. Enfin, ayant pris son élan, l'homme précipita le corps au loin, dans les flots. Je n'ai jamais su où il avait passé les 2 journées suivantes. Je le devine, cependant. Le fleuve s'est parlé, et l'homme silencieux écoutait. Puis l'attamant reparut, et ce jour-là, un délégué spécial venu de Moscou l'emmena dans la capitale. 6 mois après, nous nous rencontrâmes sur le front sud. J'y commandai un régiment, et lui était un des 1000 soldats rouges placés sous mes ordres. J'avais de suite compris qu'il voulait à tout prix éviter mon regard. Mais un jour, s'étant trouvé face à face avec moi, il lui fut impossible de s'esquiver, et je remarquai alors que ses yeux gris avaient cessé. Mon hôte s'arrêta. Car des pas pressés résonnaient dans le corridor. On frappait à la porte. « Camarade commissaire, venez vite !» cria une voix. En se rapprochant de plus en plus, des coups de feu se succédaient dans les ténèbres. Plus lourdement, la main de mon ami pesa sur la mienne. C'est ainsi que l'amour incandescent se pose sur notre âme. Et c'est ainsi que ma patrie, la Russie, pays de fer et de cire, avait posé sur moi sa griffe. Ainsi s'achève la princesse par Andrei Sobol.